Donc en fait, sous des, donc en fait, sous des, sous départ, c'était une nuit d'AS. DAS, c'était un collectif d'associations à Nantes qui a peut-être, d'ailleurs, en tant que collectif, avec vraiment toutes les associations qui avaient fait qu'un seul événement, que cette nuit d'AS, donc du 10 au 11 juin 2002, et non 2000, pardon, 10 juin 2000. Et à ce moment-là, j'ai acheté un carnet en début de soirée, et effectivement, à peu près dans la même heure, Eve Laureau m'avait informé que son ami Patrick André allait revenir à Nantes juste une nuit pour répartir au cours de la ville des textes et appeler des cabines téléphoniques les unes après les autres, dont il prédistribuait les adresses. Donc lui, c'était une performance qu'il faisait dans la ville. Et moi, j'avais cette espèce de concordance, de coïncidence hasardeuse entre l'achat de ce carnet et puis cette unité de temps de travail qui s'offrait à moi, puisque du coup, très vite, j'ai fait le projet de le suivre au long des cabines et de prendre en note ce qui allait se passer et de lui rendre le carnet à l'issue de la nuit, c'est-à-dire sur les coups de 6h, 6-7h du matin, puisque moi je savais que ça se finirait à ce moment-là, puisqu'il était annoncé dans le petit programme de son parcours de cabine que ça allait se passer comme ça. 1h45, troisième appel, et dit ne pas vouloir Julien Gracq. Arrêt de sa voix, reprise de la lecture, finissant par Nocturne minuit 45. Il est 1h45, ne relève pas l'erreur, me rend à la deuxième cabine. Je veux faire monter l'audace, lui rendre son règlement de compte avec la ville Nantes, ne pas être spectateur complice, je décide au prochain appel lire mon texte de 20h. J'ai perdu ce texte depuis, je l'avais séparé du reste du bloc-notes, il y était question de délassement. Écrit pour honorer l'acquisition du bloc-notes, c'est à vouloir faire bon usage des feuillets propres qu'est venu le projet de suivre Nocturne de Patrick André, dont Eve Leroux m'avait parlé dans l'après-midi. 1h55, trop tôt dans la nuit pour me mettre en tête à tête, affronter son travail, ne pas lui laisser du champ, je vais laisser son 2 heures sonner, des fêtards passent, parle au téléphone, sans que je sache s'il a sonné. La nuit fait aimer les coïncidences, en amourette, je préfère en effet répondre à son 2 heures en fêtard, en faux inconnu. 2h05, j'ai répondu d'un air très diverti, j'ai ri grassement et laissé tomber le combiné. Je suis parti hors de vue, je renonce à y retourner avant une demi-heure. 2h07, je suis hors parcours. Est-ce l'hommage de le suivre qui légitime mon arrogance?
Le téléphone arabe.
Et il y a une femme?
Le téléphone arabe.
Qui commence à rire? Et cette femme, elle fait partie du clan des inventeurs de trucs? Et il y avait un autre clan qui était opposé. C'était ceux qui ont tout vu. Et en fait, le clan de ceux qui ont tout vu.
Le club des inventeurs de trucs. Et le club de ceux qui savaient tout. Que ceux qui savaient tout, ils voulaient savoir ce qu'ils inventaient comme objet.
Il y avait deux clans, le clan de ceux qui savent tout et le clan. Au début, c'était pas très très différent, mais ça a vite changé par rapport aux suivantes.
Ouais, je me souviens plus.
Les autres, le clan des bidules.
Et ce cri, c'est le cri d'une espionne qui s'est fait choper parce qu'il y a deux clans, il y en a un, c'est des machins bidules, et les autres, c'est ceux qui savent tout.
Et comme ce moment donné fait partie du clan des machins bidules et que l'Espagne a été capturée par le clan de ceux qui savent tout, oui, il y a un combat entre les deux clans, et pourquoi est-ce que les deux clans sont l'un contre l'autre? Les machins bidules vont découvrir le mystère, enfin vont finalement découvrir...
Et je lui ai effectivement remis le texte à 6-7 heures du matin, après avoir suivi toutes les cabines, après m'être rendu compte que le fait d'écrire, y compris, impliquait de pas strictement suivre ce qu'il allait se passer, pas même d'en être un simple témoin. Et donc j'étais dans le texte, du coup, retraduit surtout l'interrogation de ce que c'est que d'écrire un événement en le suivant. C'est en ça que c'est un traité du délassement, parce que finalement c'est presque... au départ, jamais que le le protocole journalistique de suivre un événement, pour autant qu'il soit relativement exceptionnel, mais c'est aussi le fait des journalistes de retraduire quelque chose de plus ou moins exceptionnel. Et puis, à l'arrivée, c'est un texte que je pouvais revendiquer comme poétique, justement parce que cette concomitance de l'unité de temps, de l'unité de support qu'était ce carnet, et de la réflexivité qu'impliquait la situation sur et le travail poétique et le rapport à un événement pouvait faire tenir ça comme un travail poétique, qui plus est 8 ans après, ou 7 ans après, puisque c'est paru en 2007 chez Apax, alors que le texte était de 2000, et ça allait presque de soi pour moi qu'il ne paraisse pas plus tôt que ça, enfin qu'il y ait cette espèce de temps qui passe, et que l'unité de support soit par sa patine rattrapée dans sa gratuité aussi. J'ai habité Nantes de 1994 à 2002. Et c'était plus ou moins de fait en tant que poète que j'étais lié à ce collectif d'âge, puisque on venait de fonder avec Emmanuel Rabu, avec Christine Moreau des éditions Mémo, avec Martin Richet ensuite, l'association Vert qui consistait à organiser des lectures de poésie contemporaine à Nantes, un peu séparément ou avec une autre intensité, un autre rythme que ce que la Maison de la Poésie nous permettait.
Une petite musique très nappée, avec des harmoniques douces pour faire ses besoins, c'est un problème. Une musique planante, ça nous projette en zone internationale, comme si nous quittions le pays. Comme si nous quittions le pays, juste après avoir fait. Ce n'est pas que nous sommes attachés à nos effets personnels, jusqu'à ne pas supporter de frontières entre Nord-Est et nous. Ce n'est même pas que nous avons quelques réticences à polluer des pays étrangers pour revenir chez soi lavé de ses envies. Au contraire, ce sont les histoires de frontières. Ce sont les histoires de frontières qui sont merdiques. C'est pourquoi les musiques planantes nous patriotisent et nous emmerdent plus qu'elles nous purgent. Le béaba du punk, c'est bien de refait. C'est bien de refaire une histoire de la musique par sous-genre humain, le fun serait de la musique d'enculé, le blues, une musique constipée, honte ou état de cause. En tout état de cause, tant qu'elle nous caresse, la musique, on l'a dans le cul. Ce qui est paradoxal tant la merde est, chez les punks, une métaphore sociale inégalée. Tandis que, par provocation ou instinct de désorganisation très honorable, le surennoblissement de toute matière fécale, artistique y compris, est trop nécessairement puant. Il faut être Mozart. Il faut être Mozart pour faire lumineux l'équilibre jusque là où ça chie, et l'écouter encore pour trouver sur le trône la juste extension du plaisir à se soulager.
À peu près d'une traite, puisqu'il y a 2-3 pages de rajout. Alors après, effectivement, Patrick André m'a renvoyé le texte bien des mois après. D'ailleurs, je crois que c'est effectivement à peu près en février 2002 qu'il me l'a renvoyé, au moment où je fais une des notes. Et puis, je fais quelques autres notes au moment de recopier. Ah non, j'ai recopié le 16 octobre 2001. Donc voilà, à peu près un an après, il m'a renvoyé le carnet. Et puis il y a 2-3 feuillets qui ont été ajoutés pour dire un petit peu l'implication de Cécile Desmarais, qui était celle qui avait invité Patrick André à faire une action à Nantes à l'occasion de cette Midas. C'est-à-dire, j'ai retrouvé Ève vers les 5h du matin. Elle est donc du coup mentionnée dans le texte. Mais j'ai pas croisé d'autres personnes, en tout cas dans la nuit, en rapport avec son action. Ce qu'on pourrait dire, effectivement, qui peut-être relie ce travail-là à d'autres écrits que j'ai pu faire, c'est le fait que le destinataire soit mise en ballottage du texte, ou que le lecteur soit déplacé de par le fait que le texte ne s'adresse pas à lui. C'est vrai que l'expérience de la newsletter du dimanche dans les années 2002-2003, où j'envoyais chaque dimanche par mail un texte, enfin une lettre, impersonnelle et en même temps surchargée de références personnelles à 400 personnes au début, 2000 à la fin, c'était déjà une mise à distance et en même temps une intensification de la mise en distance du lecteur. Et si on parle de mes travaux qui allient musique et poésie dans les opéras parlés, on pourrait aussi éventuellement retrouver cette thématique du texte qui, à défaut de se défier de son destinataire, en tout cas se défie du genre qu'il promet, puisque effectivement ça s'annonce comme un opéra parlé pour être aussi bien, on peut le dire dans les faits, la diction d'un texte en présence de musique instrumentale, ce qui structurellement ressemble à un mélodrame. Alors je dis pas mélodrame, je dis bien opéra parlé pour signaler qu'il y a une intention générique qui en quelque sorte n'est pas à sa place, ou qu'il y a bien un problème dans l'affirmation d'un genre. Et ça, voilà, c'est quelque chose aussi dans d'autres expériences que j'ai pu faire qui pourraient être récurrentes dans mon travail, c'est toujours rencontrer le genre en posture un petit peu problématique. Et c'est vrai d'ailleurs que si je me retrouve dans un milieu qui est celui de la poésie, moi je dis assez facilement que c'est simplement parce que c'est un lieu qui est très hospitalier, me semble-t-il, ou assez hospitalier plutôt, à ce type de pratique, mais revendiquer ça positivement comme de la poésie est en soi problématique, évidemment. Il y a d'autres appellations qui peuvent venir. C'est vrai que le disque Ecumétruc, qui est paru chez Relecture, a pour sous-titre Poèmes électroniques, pour affirmer le fait que la synthèse est une force d'affirmation qui vaut d'être levé. J'assume aussi éventuellement, et pour le traité du délassement comme pour d'autres démarches comme le fanzine Mon Nouvel Ami qu'on peut trouver sur le site internet, là j'assumerai assez tranquillement l'appellation de poésie participative pour rentrer en résonance, sinon à défaut de rentrer en clash avec cette notion de participativité qui on va dire carbonise la démocratie et qui voudrait mettre à mal l'idée que le lecteur est tant que ça, ou aussi idéalement qu'on le dit en tout cas, acteur dans un texte. Du coup j'ai mené des expériences qui n'ont pas encore fait l'objet de parution au lycée Augustin Thierry à Blois, de poèmes participatifs au sens où des élèves de terminale prennent part à l'élaboration du poème en direct, puisque c'est sous forme d'un questionnaire auquel les élèves répondent en même temps et que j'enregistre. Voilà, c'est des tentatives dans lesquelles je suis actuellement, d'essayer de lier ce travail de rapport entre musique et poésie à cette notion éminemment problématique de poésie participative.
T'as pas l'impression que ça fait un peu trop...
Ce portrait fait créer avec tant d'amour.
Si c'était plus juste, dis si c'était plus fluide, enfin si ça coulait, si ça...
Qu'il enleva à son modèle la vie inconsciente.
Si ça s'arrêtait pas comme une explication, si c'était un truc qui...
Il résulta que cet objet devint...
Enfin, c'est pas scientifique, mais tu t'arrêtes au point, je peux le couper.
Ce portrait fait créer avec tant d'amour qu'il enleva... Il n'y aura qu'une reprise de souffle. Qu'il enleva à son modèle la vie inconsciente, et le résultat que cet objet devient un objet magique qui devenait vivant pendant que le modèle dormait et faisait vivre ses actions du rêve. De ce fait, ce modèle devint absolument libre.
Tu dis en rêve, nos actions sont véritables.
En rêve, nos actions sont véritables.
Enfin, c'est un truc un peu démonstratif.
Il s'agit seulement que nous situons dans une conception spatiale qui est pour le moment inconnue à notre intelligence, trop pervertie et pétrifiée.
T'as pas l'impression que quand tu le lis, eh ben, ça fait comme dans le premier, du principe que c'est un rêve. Le rêve, c'est pas... C'est pas logique, c'est pas expliqué, il n'y a pas de...
Réveil, le modèle passé du rêve à la réalité, le portrait devenait seulement que nous situons dans une conception spatiale
redevenait,
qui est pour le moment inconnue à notre intelligence, trop pervertie. Puisqu'il vivait aussi dans la
vie. Enfin, je sais pas, refaire comme.
Puisqu'il vivait aussi la vie de son désir, nous ne comprenions pas parce que nous vivons.
Reprendre pareil, parce que chaque fois quand tu recommences une strophe, tu fais puisqu'il vivait aussi la vie de son désir,
nous ne comprenions pas.
Parce que nous vivons. Enfin,
parce que nous vivons en trois dimensions, si nous vivions en quatre dimensions.
Moi, c'est une des manières. Je le vois, c'est censé.
Comme la lumière du temps.
Le rêve, on passe d'une image à une autre.
Oui, les primitifs qui vivent et agissent selon leur conception mythique, nous pourrions faire vivre nos rêves.
Juste pour voir, enfin je sais pas, juste pour voir.
Le portrait devenait vivant pendant le sommeil du modèle et il vivait le rêve.
Et s'il y a un autre truc comme ça, on peut pas essayer de mettre...
Il vivait le rêve exact du modèle, de ce fait le modèle devint absolument libre.
Un peu de... Enfin pas de saccader, mais d'essayer de couper un peu... Mais pas, justement pas couper dans la logique des choses, pas couper là où c'est censé expliquer, juste...
Pendant le sommeil...
Couper un peu.
Du modèle, le portrait sortait mystérieusement du tableau et vivait la vie du désir de son modèle comme en rêve. C'était bien pendant le sommeil.
Non, c'était en rêve, mais là... Enfin, juste...
En rêve, nos actions sont véritables. Il s'agit seulement de l'utiliser dans une conception spéciale qui est pour le moment inconnue à notre intelligence trop pervertie et pétrifiée. Au réveil, le modèle passant du rêve à la réalité, le portrait devenait immobile dans sa surface. Le regard de cette femme d'abord avait attiré celui du peintre.
Le narrateur n'en était pas à sa première bizarrerie idéologique. C'est aussi pour ça que, tout en étant dans la distance, et n'importe quelle fantaisie qui passe pourra toujours lui servir après, toujours pareil avec les folles, il y a toujours celle du dessus. Si ça les emmerde, ce sera toujours ça, et le charme de l'indifférence a ses effets. De toute façon, je n'ai jamais aimé les narrateurs, ce n'était pas pour compter dessus. C'était bien ça, généraliser sur le compte des narrateurs, et continuer, à propos de leur façon de prendre chaque chose en son temps bien chapitre, là, bien là, il a fallu qu'il me réponde par un exemple à lui. Évidemment que je généralisais généreux, mais qu'il en fasse une affaire personnelle à lui aussi, de la part de l'ami en question, franchement, je trouvais ça dégueulasse. Il avait dû boire un narrateur pour la ramener à ce moment-là, justement, ça ne pouvait que tralala. Après des kilomètres de départemental et la cure de médiocrité jusqu'à plus ne pouvoir que luire, tout à fait le genre d'ami à courir derrière ces lueurs-là, à ritualiser la seconde partie de soirée du dimanche, autant j'avais consenti à faire périple du prochain rendez-vous. Bref, pour l'avoir fixio moussé sec, et voilà mon narrateur très durci à l'idée de faire cow-boy. Et d'autant plus à ma résolution de ne dire pas plus pour confirmer que le périple de toute façon fera western. Le dîner. Comme un jeu d'enfant, est-ce qu'on fait des bulles? Maman dit qu'il faut faire des bulles. La maîtresse a dit qu'il ne fallait pas. Et qu'on pouvait faire des cadres. Maman s'étonne qu'elle ait dit ça. C'est que la maîtresse ne l'a dit qu'à lui, parce qu'il allait plus vite. C'est dire que maman ne va pas le croire. Elle sait qu'il va plus vite et heureusement que le chef de service n'est pas là, surtout qu'il fait des bulles à tous les coups. Une fois que le fils fait du piano au lieu des cadres, les bulles peuvent être électriques. Par conséquent, la maîtresse avait dit qu'on pouvait aussi faire des bulles avec le piano. Le chef de service avait entendu, un jour à la radio, une histoire de bulles faite au piano déjà à l'époque de Schubert. Maman écoutait le chef de service d'un air distrait. Maman et le fils pianiste avaient toujours écouté la radio encore plus distraitement d'une façon exemplaire. Et sachant que Schubert n'est pas une toccade, on ne saurait lui tenir la rigueur d'une histoire de bulle. Il est plus électrique. C'est extrait du début de Traction Wawa, qui est à paraître chez Voix Édition, dans la collection Vent Contraire.